Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 du podcast Quand dit la Bible. Je suis désolé de vous avoir autant fait attendre. J'étais en pleine période de révision et d'examen. Donc du coup, niveau temps, c'était vraiment chaud. Et en plus, le sujet était en cours de relecture. Je voulais en tout cas vous remercier pour tous vos retours. Ça fait super plaisir et ça m'encourage, ça nous encourage avec ma sœur à continuer tout ça pour la gloire de Dieu, bien sûr. En plus, j'ai eu entre-temps la chance d'avoir un nouveau micro de meilleure qualité. Et donc, je remercie celui qui me l'a financé. Il se reconnaîtra. Grâce à lui, les enregistrements seront de meilleure qualité. En tout cas, installez-vous bien, mettez-vous à l'aise et c'est parti. J'en suis sûr que ça ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, et même j'ai envie de dire depuis toujours, que le monde est rempli de personnes qui sont des référents dans leur domaine et qui, grâce à ça, ont une immense influence autour d'elles, que ce soit dans le domaine de la mode, de la musique ou du sport, entre autres. On peut citer par exemple CR7 ou Cristiano Ronaldo et son éthique de travail hors norme dans le foot. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, il a fait perdre 4 milliards de dollars à Coca-Cola parce que, en fait, au cours d'une conférence de presse, il a décalé les deux bouteilles de Coca-Cola qui étaient placées devant lui et à la place, il a brandi une bouteille d'eau. Et ce simple geste a fait perdre 4 milliards de dollars à Coca-Cola. C'est dire de son influence. On peut aussi parler de LeBron James dans le basket ou dans le domaine de la musique, Jay-Z avec son sens des affaires notamment, ou encore Rihanna avec son immense empire cosmétique. Et du coup, ces gens sont des modèles, des sources de motivation, d'inspiration pour beaucoup de personnes. Malheureusement, on a tendance à oublier que dans la Bible, il y a aussi de nombreux modèles qui n'ont rien à envier, vraiment, à ceux que je viens de citer et qui ont beaucoup à nous apporter, notamment dans le domaine de la foi, du cheminement avec Dieu, mais pas que. Dans la Bible, le modèle par excellence, bien sûr, c'est Jésus. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à Joseph et plus particulièrement à comment il a réussi à surmonter la colère, la rancune pour pouvoir pardonner et aller de l'avant. Et vous verrez, c'est une vraie masterclass. Du coup, dans cet épisode, on va tenter de répondre à la question « Quels sont les éléments, les ingrédients qui ont permis à Joseph de pardonner à ses frères ?» Alors, on va répondre à cette question en deux étapes qui seront 1. Le processus de guérison. 2. Les résultats de ce processus. Alors, le but de cet épisode, c'est pas de raconter l'histoire de Joseph, mais de s'intéresser précisément aux éléments qui lui ont permis de pardonner pour que nous aussi, on puisse y arriver à notre échelle. Mais pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je ne vous ai pas oublié, je vais quand même faire une rapide mise en contexte. Alors Joseph, c'est le fils de Jacob. Il fait partie d'une grande fratrie parce qu'il a 11 frères. Mais sa particularité, c'est que c'est le fils préféré de Jacob parce que sa mère était la femme préférée de son père. Et le problème, c'est que Jacob faisait du favoritisme, montrait clairement sa préférence envers Joseph par rapport aux autres frères. Et ça posait problème parce que les frères l'ont vraiment mal pris. Et c'est vrai que c'est blessant quand ton père ou ta mère fait du favoritisme, montre clairement ses préférences vis-à-vis de ta sœur ou ton frère. Et en plus, Joseph en rajoutait parce que clairement, c'était une balance. Voilà, il faut le dire, c'était une balance. Et tout ça, ça a attisé la jalousie des frères à un tel point qu'ils ont décidé dans un premier temps de le tuer. Mais un certain nombre de choses ont fait qu'au final, ils l'ont vendu à des marchands qui l'ont emmené en Égypte. Donc là, Joseph, il est littéralement arraché à sa famille, son père, sa mère. Il n'a même pas pu leur dire au revoir. Il passe du fils préféré, gâté, à esclave loin de chez lui. Et donc notre première partie commence quand il vient tout juste d'arriver en Égypte. Alors là, du coup, on va attaquer la partie 1 qui est le processus de guérison. Alors le premier élément qui a permis à Joseph de pardonner à ses frères et auquel on va s'intéresser, c'est la présence de Dieu à ses côtés. Et justement, quand on lit le texte, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout de suite que dès son arrivée en Égypte, que Dieu était avec lui. Et ça, on le voit notamment au verset 2 du chapitre 39 de Genèse, qui nous dit « Le Seigneur était avec Joseph, si bien que tout lui réussissait ». Cette idée, elle est tout de suite reprise au verset suivant, qui nous dit « Celui-ci se rendit compte que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait ». Du coup, vous avez compris que Joseph est arrivé en Égypte en tant qu'esclave. Et donc du coup, en tant qu'esclave, il a pas choisi son maître, il a perdu sa liberté et en plus, il dépendait entièrement de son propriétaire. Son propriétaire, c'était Potiphar, qui était en fait un haut fonctionnaire et un proche du pharaon. Mais ce qui est fort, c'est que même dans l'esclavage, Joseph a fait le choix de laisser Dieu être le vrai maître de sa vie, sachant que, pour rappel, l'Égypte était un pays avec une religion polythéiste et que la relation avec Dieu, elle est basée entièrement sur le volontariat. Dieu ne s'impose à personne et là, il ne s'est pas imposé à Joseph. Cette idée, on la retrouve notamment dans Apocalypse, chapitre 3, au verset 20. Et là, justement, la relation entre Dieu et Joseph, elle n'est pas rompue. Et peut-être même qu'elle n'est vraiment à ce moment-là. Je ne sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois qu'il m'arrive une galère, tout de suite, j'ai tendance à accuser Dieu, à me dire, mais pourquoi tu permets ça? Pourquoi tu permets ceci? Pourquoi tu permets cela? Et c'est vrai que agir comme ça ouvre la porte au manque de foi et du coup, bah, s'éloigner de Dieu. Mais ce qui est fort, c'est que Joseph, lui, il a fait tout le contraire. Malgré le traumatisme qu'il vient de subir, bah, il ne s'est pas renfermé sur lui-même. Il a au contraire laissé son cœur ouvert à Dieu. Et ce choix-là a pour conséquence que Dieu a pu le bénir dans toutes ses activités. On le verra par la suite. Et pour conclure ce premier point, on peut dire que suite à tous ces éléments dont on vient de parler, le processus de guérison vient tout juste de commencer. Alors le deuxième élément auquel on va s'intéresser et qui a permis à Joseph de pardonner à ses frères, en fait on va le résumer en un mot, qui est la résilience. La résilience, pour ceux qui ne savent pas, selon le Robert, c'est la capacité à surmonter les chocs traumatiques. Et justement, cette capacité de Joseph à surmonter les chocs traumatiques, on va le voir, on va l'observer dans deux situations bien précises. Alors la première situation à laquelle on va s'intéresser, elle se déroule chez Potiphar, qui est, je rappelle, le propriétaire de Joseph. Ce qui est fort, c'est qu'en fait, Joseph, il fait pas juste ce qu'on lui demande, ce qui serait normal, entre guillemets, pour un esclave, mais il fait bien plus, il entreprend. Ça, c'est un terme qu'on retrouve dans la version Louis II, dans le chapitre 39 au verset 3 de Genèse. Et non seulement il entreprend, mais il contribue de cette façon à la prospérité de son maître. Alors que, je rappelle, il vient tout juste d'être trahi par ses frères et qu'il est passé d'enfant gâté à esclave. Et c'est là qu'on voit que sa relation avec Dieu, elle porte du fruit. Parce que je pense que sans Dieu, après ça c'est une supposition, il aurait plutôt cherché à s'enfuir, à retrouver ses frères et à se venger. Un peu comme dans Ben-Hur, je sais pas si vous avez vu le film, où en fait le héros principal, il a été trahi par son meilleur ami et dans tout le film, il va chercher à le retrouver pour le tuer. Et justement, grâce au fait que Joseph ne reste pas focalisé sur ce qu'il a subi, donc il fait preuve de résilience, qu'il réussit en quelque sorte à tourner la page et que en plus il contribue à la prospérité de son maître, tout ça va lui permettre grâce à Dieu de devenir l'intendant de la maison. Donc en gros, en termes de hiérarchie, c'était le deuxième après son maître, donc tout passait par lui. Il avait plus de responsabilités, il était mieux traité qu'un esclave, on va dire, dit basique. Et donc là, sa situation, elle s'améliore. Alors là, on va aborder la deuxième situation, mais juste avant, je vais quand même vous faire une rapide mise en contexte. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la situation de Joseph, elle s'est améliorée, parce qu'il est devenu intendant de la maison, il a gagné en responsabilité, et surtout, il a gagné l'estime de son maître. Mais le problème, c'est que la femme de son maître a commencé à avoir des vues sur lui. Parce que ça, c'est un détail qui est donné dans la Bible. En fait, Joseph était beau. Voilà, il était plutôt bégé, il était grand et stock apparemment. Donc ça, clairement, ça n'a pas échappé à la femme de son maître. Et du coup, elle a commencé à lui faire des avances. Elle était prête à tromper son mari, donc du coup le maître de Joseph, avec Joseph. Et à plusieurs reprises, elle est venue vers lui pour qu'ils couchent ensemble. Mais Joseph, voulant rester fidèle à Dieu et ne voulant pas trahir son maître comme lui-même a été trahi d'ailleurs, ben, il résiste, il la repousse à plusieurs reprises. Et ça, clairement, la femme de son maître va mal le prendre, parce que voilà, clairement, elle se fait stopper par un esclave. Et donc, du coup, elle va l'accuser de tentative de viol. Et à cause de ça, Joseph va être jeté en prison. Donc là, c'est le coup de grâce pour Joseph. Il se retrouve injustement en prison avec une réputation salie. Lui sort sa charne. En plus, je crois qu'il n'y a rien de pire que d'être accusé de quelque chose que l'on n'a absolument pas fait, parce que là, on ne l'accuse pas d'avoir volé une pomme. Non, on l'accuse d'avoir violé quelqu'un, donc c'est vraiment super grave. Et à ce moment-là, la fidélité de Joseph envers Dieu, elle est de nouveau remise en question. Parce que comment ne pas ressentir de la colère, de l'injustice, un sentiment d'abandon et encore une fois de trahison, mais par Dieu cette fois, parce que si la fidélité à ses principes, le fait de ne pas coucher avant le mariage, de ne pas coucher avec une femme déjà mariée, qui lui vaut de se retrouver en prison. Et là, sa situation empire. Il passe d'esclave à prisonnier. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est souvent quand on essaie d'être fidèle à Dieu, à ses principes, que les choses se compliquent et que les difficultés arrivent. Donc là, encore une fois, Joseph, il aurait pu largement se renfermer sur lui-même et se rebeller contre Dieu. en ressassant notamment tout ce qu'il a vécu en termes d'injustice, tout ce qu'il a perdu. Mais là, encore une fois, il trouve le moyen de faire confiance à Dieu, et justement, sa relation avec Dieu va l'amener à ne pas s'apitoyer sur son sort et se préoccuper seulement de ses propres intérêts et de ce qui l'a blessé. Et ça se manifeste une fois de plus autour de lui. De quelle façon? Ben en fait, il va se distinguer des autres prisonniers, certainement parce qu'il avait une bonne conduite. Et ça, le chef de la prison va le remarquer. Et Dieu va permettre dans sa bonté que le chef de prison établisse Joseph en tant qu'intendant. Donc c'était le deuxième après lui. Et donc là, sa situation va de nouveau s'améliorer, puisque en tant qu'intendant, il avait plus de liberté, plus de responsabilités. Enfin, il avait des responsabilités tout court. Genre, dans la prison, bah, c'est lui qui dirigeait les prisonniers. Enfin, voilà. Et bah, là, clairement, on voit la main de Dieu. Et bah, Dieu faisait réussir tout ce que Joseph faisait. Et voilà. Et là, du coup, Joseph, il va pas abuser de son statut. Bien au contraire, il va utiliser la position privilégiée que Dieu lui a donnée pour se tourner vers son prochain. Donc là, clairement, il fait preuve d'altruisme parce que, encore une fois, il aura pu complètement rester focalisé sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il a blessé, et ça aurait été complètement compréhensible. Mais non, il se tourne vers son prochain. Et le fait justement qu'il se tourne vers son prochain, ça va l'amener à remarquer deux prisonniers du pharaon qui étaient en prison pour une affaire de vol. Et justement, l'intérêt qu'il va leur porter, qu'il va leur manifester, va aboutir plus tard non seulement à sa mise en liberté, mais aussi à son ascension en tant que Premier ministre d'Égypte. Oui, vous avez bien entendu, il va devenir Premier ministre d'Égypte, il passe de prisonnier à Premier ministre d'Égypte. Donc là, je crois qu'en termes d'ascension, on peut difficilement faire mieux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vraiment comme ça va vous inciter à les lire. Mais voilà. Donc là, on se rend compte vraiment que la fidélité envers Dieu, ça finit toujours, toujours, toujours par payer. Et en plus, bien au-delà à chaque fois de nos espérances, parce que là, quand même, il est quand même devenu gouverneur d'Égypte. Sachant qu'à cette époque-là, l'Égypte, c'était une superpuissance, donc voilà, c'est pas n'importe quoi. Et on se rendra compte par la suite que Dieu a délivré Joseph non seulement d'une prison physique, mais surtout d'une prison psychologique. Alors le troisième et dernier élément auquel on va s'intéresser dans cette première partie et qui a permis à Joseph de pardonner à ses frères, en fait, c'est tout simplement le temps. Pourquoi le temps? Bah parce qu'en fait, de nombreuses années se sont passées entre l'arrivée de Joseph en Égypte, il avait 17 ans d'ailleurs, et son ascension en tant que Premier ministre. Dans mes notes, j'ai écrit 13 ans environ. Je ne sais pas pourquoi, j'avais fait des petits calculs à l'époque. Mais bon, bref, cette information est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de la même façon que pour les blessures physiques, il faut du temps pour qu'elles cicatrisent, ben, il en faut encore plus pour les blessures émotionnelles et psychologiques. Donc là, clairement, on peut dire que le temps a réparé Joseph. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez capté la petite ref, mais voilà. Donc du coup, durant tout ce temps, Joseph, il a certainement réussi à aller de l'avant en se remémorant les rêves qu'il a eus durant son adolescence. Je ne vais pas rentrer dans les détails, comme ça va vous inciter encore une fois à aller lire le texte. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on a les promesses de Dieu dans sa parole, comme par exemple dans Jérémie 29, verset 11, qui nous dit « Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » Donc, pour conclure cette première partie, les trois éléments qui ont permis à Joseph de pardonner à ses frères sont le fait que Dieu était à ses côtés. Il y a sa résilience, sa capacité à faire preuve de résilience, à ne pas s'apitoyer sur son sort. Et enfin, le temps. Alors là, du coup, on va attaquer la partie 2 où nous allons voir les résultats du processus de guérison. Alors après être passé d'enfant gâté à esclave, d'esclave à prisonnier et de prisonnier à premier ministre, il va devenir papa. Il va avoir deux fils. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les prénoms qu'il va choisir pour ses deux fils, eh bien en fait Joseph va attester vraiment le fait que Dieu a opéré un miracle dans sa vie. Faut savoir qu'à cette époque, et même aujourd'hui toujours aussi, hein, les prénoms ont une signification, sauf qu'avant, on va dire que le délire était un peu plus poussé. Et donc du coup, Joseph va appeler son premier fils Manassé, qui veut dire Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et la maison de mon père. Et son deuxième fils, il va l'appeler Éphraïm, qui veut dire Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Bon, ben là, vous vous dites certainement, bon, ben tout est bien qui finit bien. Ben en fait, non, parce qu'il va arriver un truc de fou, et ce truc de fou, c'est qu'en fait, il va se retrouver nez à nez avec ses frères. Pour un certain nombre de raisons que je ne vais pas dire, vous savez pourquoi maintenant, mais en tout cas, voilà, il va se retrouver nez à nez avec ses frères. Ce à cause de qui il a traversé tout ce qu'il a traversé jusqu'à maintenant. Donc je vous laisse imaginer la scène, tous les souvenirs douloureux qui refont surface d'un coup. Mais le truc, c'est que là, la donne, elle a changé. C'est plus le petit Joseph qui rapportait les bêtises de ses frères à son père. C'est plus le petit Joseph en mode esclave, entre guillemets. Mais là, c'est le Joseph en mode premier ministre, en mode gouverneur d'Égypte. Et donc là, il a une pleine autorité sur eux et il a même un droit de vie ou de mort sur eux. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point là, le rapport de force, il a changé. On va pas se mentir, dans cette situation-là, 99,9% des gens se seraient vengés. Mais vous avez deviné, Joseph, c'est pas comme ça qu'il va réagir. Mais quand même, quand on lit le texte, on a l'impression que sa réaction, elle est en deux temps. Parce que, en fait, dans un premier temps, on a l'impression qu'il se lève submergé par ses émotions, ce qui serait quand même tout à fait légitime. Parce que, en fait, il va les accuser d'espionnage et il va les jeter en prison. Mais on voit ensuite qu'au verset 18 du chapitre 42, ben en fait, Joseph, il va dire à ses frères qu'il croit en Dieu. Et ça, c'est pas anodin parce que, pour rappel, Joseph, il vit en Égypte. Et à cette époque-là, c'était un pays avec une religion polythéiste, donc avec plusieurs dieux. Et là, justement, malgré le fait qu'il peut se venger parce que ben, il les a jetés en prison, il aurait pu, je sais pas moi, les faire torturer et tout. Et malgré tout ce qu'il peut ressentir, tout ce qu'il a pu ressentir à ce moment-là, ben, Joseph, il n'a pas oublié ses principes, son identité et en qui il croit. Et là, il va montrer cette fois, par son attitude, qu'il est effectivement guéri. Tout à l'heure, on a vu que quand il a nommé ses fils, voilà, c'était en référence à ce que Dieu a fait pour lui. Mais là, il va le montrer effectivement par ses actes, parce qu'en fait, il va leur faire du bien, il va bien les traiter, et il va même subvenir à leurs besoins. Il va leur donner la nourriture qu'ils étaient venus chercher. Et donc là, bah, il fait littéralement ce que Dieu nous demande de faire, donc c'est-à-dire bah, faire du bien à son prochain, et notamment à ceux qui nous font du mal. Il n'a pas gardé la rancune. On peut noter que qu'un des éléments qui a certainement aidé Joseph à réagir comme il a réagi, à réagir comme Dieu nous le demande, c'est le fait que ses frères, à plusieurs reprises, ils ont manifesté du remords et ils semblaient avoir changé. C'est vrai que dans le cas contraire, quand là où les personnes qui t'ont blessé semblent bah, complètement s'en foutre de ce qu'ils t'ont fait, bah, là vraiment c'est encore plus dur. Pour que vous puissiez bien comprendre, il faut que vous lisiez le chapitre 42 vraiment. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que justement Joseph, il va dire à ses frères de ne pas s'affliger et il va les inciter à ne pas trop culpabiliser de ce qu'ils lui ont fait. Et c'est vrai que je sais pas pour vous, mais quand moi par exemple je fais quelque chose que j'aurais pas dû faire, quand j'ai dit un truc que j'aurais pas dû dire et que je regrette et que je m'en veux, des fois tellement j'y pense que ça m'empêche de dormir. Donc eux là, ils ont vendu leur frère. Donc j'imagine même pas ce qu'ils pouvaient ressentir. Et c'est vrai que parfois dans les situations où on a été victime d'une injustice, on pourrait avoir tendance à condamner, enfermer l'autre dans son erreur et oublier que justement la personne en face, c'est un être humain et que dans le meilleur des cas, alors là vraiment je précise, dans le meilleur des cas, elle peut être amenée à ressentir du remords ou de la culpabilité. Alors le dernier point qui montre la guérison de Joseph, donc c'est bien après les retrouvailles avec ses frères, c'est lorsque Jacob, son père, va mourir. Et à ce moment-là, en fait, les frères de Joseph, ils vont avoir peur que Joseph se venge. Alors que pourtant, il en a eu l'occasion à d'innombrables reprises avant, mais il ne l'a jamais fait. Au contraire, il les a toujours bien traités. Il les a même fait venir habiter dans la meilleure région d'Égypte. Tellement il est touché de voir que ses frères le pensent capable de faire ça, ben, qu'il va pleurer. Et je trouve que ça montre vraiment le fait que le pardon, c'est un concept divin que l'être humain, il n'arrive pas toujours à comprendre. Parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, si Joseph n'avait pas été croyant, ses frères, il les aurait détruits. Enfin, voilà. Mais bon, c'est pas ce qu'il a fait grâce à Dieu. Et voilà. Au final, bah, Joseph, il aura été relevé par Dieu. Les frères de Joseph, ils auront été pardonnés par Joseph et par leur père parce que leur père, en fait, il va comprendre tout ce qui s'est passé bien après, parce que voilà, ses fils ne vont pas venir le voir et lui dire qu'ils ont vendu leur frère. Donc voilà. Mais ils vont tous se retrouver ensemble et ils vont tous, au final, rattraper le temps perdu. Donc voilà, vous êtes arrivés à la fin de ce deuxième épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Juste avant de conclure, j'aimerais quand même rappeler évidemment que cette histoire est vraie. Je ne l'ai pas inventée. Et sachez aussi que c'est pas une leçon que je donne. Enfin, je suis le premier moi à devoir apprendre à pardonner, sachant en plus que je suis rancunier. Et voilà, non, ne croyez surtout pas que parce que je fais cet épisode sur ça, que c'est facile pour moi. Non, pas du tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a tous vécu dans nos vies des expériences qui nous ont blessés, qu'elles soient petites ou grandes, et on en vivra certainement d'autres. Mais il faut savoir que Dieu a déjà la solution à nos problèmes. Et justement, l'histoire de Joseph, elle nous montre que qu'avoir une relation avec Dieu, ne pas s'apitoyer sur son sort, aller de l'avant et le temps sont des éléments qui sont clés pour ne pas se laisser abattre par les blessures de la vie. Malheureusement, les choses ne se terminent pas de façon aussi positive que dans l'histoire de Joseph, ça c'est sûr. Mais quand Dieu délivre, il ne le fait pas à moitié. Et voilà, ce n'est pas facile, mais c'est possible car tout est possible à celui qui y croit. L'épisode numéro 2 est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et me dire ce que vous en avez pensé. Aussi, je vous encourage à regarder le film, je sais pas si vous connaissez, Joseph, le roi des rêves. Vous pouvez le trouver sur Netflix, sur Disney+, aussi, je crois, et en streaming. Comme ça, vous aurez vraiment une meilleure idée de ce qu'a fait Joseph et je trouve que ça complète vraiment le podcast. Donc vraiment, ça serait cool. Franchement, c'est pour tout âge. On pourrait croire que c'est pour les enfants, mais non, c'est pour tout le monde. Et voilà, en tout cas, l'épisode 3, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. J'ai déjà une idée du sujet, mais là, pour le coup, il n'est pas écrit. Mais bon, en tout cas, je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.